de l'Allemagne. L'Italie pouvait être chantée, mais il fallait raconter l'Allemagne. Un pays où il n'y a de grand que la pensée, où les arts, la nature, la société même, n'ont rien qui frappe les yeux ou captive l'imagination, ne pouvait inspirer une improvisatrice. Néanmoins, il y avait là pour l'esprit d'immenses richesses à recueillir. Là s'offrait au regard observateur de Madame de Staël une manière de voir, de sentir, d'exister enfin, tout à fait particulière. Et la foule d'idées nouvelles qu'elle avait trouvées en circulation parmi les hommes éclairés exigeait toute son adresse pour les expliquer et les faire valoir. Dépouillant donc le costume emprunté de Corinne, elle parle en son propre nom et paraît elle-même sur la scène. C'était le parti le plus judicieux. La forme didactique, ne demandant point d'unité, admettait une grande variété de tons. Aussi, les divers talents de l'auteur prennent-ils chacun dans cet ouvrage une physionomie bien prononcée. Toute l'ardeur de son âme, son esprit piquant et original, sa gaieté même, s'y déploie, et elle y trouve de plus une force de tête, une faculté d'abstraction, qu'on n'aurait pas devinée d'après l'élan poétique de son imagination. Ce livre se place, sans aucun doute, au niveau du précédent, et peut-être est-il plus extraordinaire, comme l'œuvre d'une femme. Toutefois, on s'attendait à une autre Corinne, et il y eut un instant de mécompte. On avait espéré des émotions, et l'on ne voyait pas d'avance comment l'auteur en donnerait. Mais Madame de Staël ne pouvait pas marcher sur ses propres traces. Elle avait d'ailleurs assez fait parler la passion, et si le feu de son génie ne se fût pas porté sur d'autres objets, elle n'eût point obtenu sa meilleure gloire. Il existe dans l'Allemagne un mérite au-dessus de toute comparaison. C'est un ouvrage profondément moral et religieux. La vertu et la religion n'y sont pas des moyens d'effet. Ce ne sont pas des cordes sonores que le talent se plaît à faire vibrer dans nos cœurs. Il règne dans la composition entière un désir, une passion de faire prévaloir des principes régénérateurs, de vivifier à la fois le sentiment et l'imagination, en combattant des doctrines qui paralysent l'un et l'autre. Ces motifs sont les seuls qui aient inspiré Madame de Staël. Ici, nul retour sur soi, nulle trace d'impulsion personnelle. Dans ses écrits précédents, elle est encore occupée d'elle-même, elle peint sa destinée sous des traits généraux, épuise, dans l'idée des peines inévitablement attachées au sort des femmes, la résignation qui lui fait supporter les siennes. Il n'est rien de pareil dans l'Allemagne. Elle ne cherche, elle ne veut que le bien, celui des lettres, celui de la société, celui de l'âme. Montrer l'union intime et nécessaire du génie de la religion avec celui des beaux-arts et de la haute philosophie, tel est le but constant de l'auteur. Mais comment se fait-il qu'en marchant à un but si louable, on trouve si peu d'encouragement? Y a-t-il un accord secret entre ceux qui veulent entendre parler de religion le moins possible et ceux qui, à force de scrupules, rendent ce sujet tellement délicat à traiter qu'il exclut par cela même? Certaines personnes pieuses s'effraient peut-être moins d'une lecture entièrement profane, pourvu qu'elle soit innocente, que de celles qui les exposent à recevoir des pensées mondaines dans l'asile le plus sacré de leur cœur. Ainsi, le mélange des beaux-arts et de la religion dans cet ouvrage a été blâmé par un écrivain, Madame More, que Madame de Staël elle-même a compté parmi les plus distingués de l'Angleterre. Il faut respecter les motifs d'un auteur si estimable et généralement si judicieux, mais on peut oser dire qu'il n'a pas envisagé la question dans son ensemble. Pour que la religion influe sur tous les moments et sur tous les hommes, il faut que la vie entière, avec les sciences et les arts qui en sont le brillant apanage, puissent être envisagées religieusement. Tant que les pensées religieuses ne s'allieront pas à toutes les autres, il y aura absence d'harmonie dans l'âme, inconséquence dans les actions, si l'on ne sent pas que tout émane de Dieu, si la communication des rayons au centre est interceptée, l'idée la plus vaste de toutes, celle de la divinité, deviendra une idée étroite et nous échappera par cela même. Madame de Staël était intimement convaincue de ces vérités, qu'elle trouva déjà répandues en Allemagne. Le pays où l'on a le plus cherché à former un même faisceau de toutes les connaissances humaines. Nul spectacle ne pouvait l'intéresser plus que celui d'une nation où le règne des opinions qu'elle avait professées jusqu'alors était solidement établi, où elle trouvait ses propres idées, d'un côté appliquées de mille manières à la vie réelle, et de l'autre appuyées sur les principes d'une haute philosophie. Néanmoins, elle juge de nouveau ces idées. Elle voit leurs inconvénients dans l'abus qu'on en fait parfois, et la force de ces impressions inattendues lui fournit sans cesse l'occasion de rectifier ces systèmes. Rien, assurément, ne lui a semblé parfait en Allemagne. Les livres, le théâtre, l'art de converser, rien n'était porté à un haut degré d'excellence. Mais partout, il y avait de la chaleur, de la vie, de l'émulation parmi les écrivains, de la bienveillance dans la société. Tout était en espérance, mais l'espérance animait tout. Elle crut respirer plus librement quand elle se vit entourée d'hommes qui n'imposaient nulle entrave au talent, nulle borne à la pensée, qui étaient étrangers à toute intolérance et qui accueillaient le génie comme un enfant du ciel, sans se défier de lui. L'esprit qui dirigeait les écrivains la portait à juger plus favorablement de leurs œuvres. Mais elle a désiré voir régner cet esprit en France, bien plus qu'elle n'a proposé la littérature allemande pour modèle à l'imitation des Français. Dans un temps où la pensée même paraissait asservie, elle a proclamé les bienfaits de l'indépendance intellectuelle, comme ceux de la liberté politique dans son dernier écrit. Cet ouvrage était épineux à composer. On s'attend à de la pédanterie, à une métaphysique embrouillée ou à une fausse exaltation sentimentale dès qu'il s'agit de l'Allemagne. Mais comme Madame de Staël découvrait à l'instant ses défauts partout où ils existaient, elle devait prouver qu'elle ne pourrait jamais en être la dupe. En outre, on était armé d'avance contre une multitude d'idées qu'elle avait à développer. Et le combat déjà engagé sur certains points rendait les amours-propres nationaux très intraitables. Mais, avec le vif sentiment de son équité naturelle, elle marche à travers toutes ces difficultés. Elle ne ménage personne. Il ne semble pourtant pas qu'elle doive blesser, parce qu'elle voit d'en haut les sujets qu'elle traite, et que, réduisant les débats littéraires à leur valeur, elle a la bonne foi de sourire la première, dès que ses protégés eux-mêmes prêtent au ridicule en quelques points. Enfin, parce qu'elle conserve la grâce d'une femme, et qu'il y a du désir de plaire jusque dans les choses piquantes qu'elle dit. Aussi les Allemands ont-ils fort bien pris ces reproches les plus sévères. En leur qualité de débutants, ils voulaient se montrer dociles. Et comme Madame de Staël donnait précisément à leur littérature ce qui lui manquait, une existence européenne, ils ont été plus flattés qu'offensés. Mais il n'en a pas été de même des Français. Une immense renommée, des auteurs naturalisés chez toutes les nations, des pièces jouées sur tous les théâtres, une langue devenue dans le monde entier comme une langue maternelle pour la classe cultivée, avaient rempli les Français d'un juste orgueil. Ils étaient, de toute manière, au fait de la puissance, et leur parler avec franchise était dire la vérité à des rois. Mais c'est là, précisément, ce qui mettait à l'aise Madame de Staël. Elle n'aimait pas naturellement le pouvoir, et toute sa générosité la portait à relever la réputation d'un peuple malheureux et méconnu. Toutefois, malgré ce sentiment, malgré l'ivresse d'enthousiasme qu'elle inspirait d'un côté et la persécution qu'elle éprouvait de l'autre, elle n'a pas commis d'injustice, et une tournure un peu épigrammatique donnée à des jugements équitables au fond, est tout ce que les Français peuvent lui reprocher. Il faut se rappeler qu'au moment où elle écrivait, la France entière était dans une fausse position. Tout se fondait sur la Révolution, et l'on détruisait chaque jour le fruit chèrement acheté de la Révolution, l'espérance de la liberté. Une hypocrisie violente dans le gouvernement n'en imposait à personne, et hors du gouvernement même, un vernis de légèreté et d'insouciance, où l'orgueilleuse consolation de la victoire servait à recouvrir un peu l'esclavage qu'on n'espérait pas cacher. De là résultaient de toutes parts des contradictions qui ne pouvaient être voilées que par des sophismes. Mais l'emploi continuel de ces sophismes provoquait une irritation singulière chez les victimes de l'ordre existant. Les apologistes de l'arbitraire prenaient des armes où ils pouvaient. Ils en cherchaient dans l'ancienne gloire des écrivains français, dans l'éclat du règne de Louis XIV. Et comme il n'y avait pas de littérature vivante, vu les données du moment, on évoquait des armées de morts et on se battait avec des siècles. Le parti que devait prendre Madame de Staël était indiqué. Elle était nécessairement rejetée dans une espèce d'opposition, et un peu d'hostilité contre la critique française n'était que la défense naturelle de ses opinions. Néanmoins, des motifs plus grands l'ont animée. Elle savait, par expérience, qu'on double ses idées en changeant de point de vue. La littérature d'un peuple spirituel et cultivé paraît toujours former un tout complet quand on la considère du dedans. Et elle est si exactement en rapport avec l'esprit qui l'a formée et celui qu'elle forme à son tour, qu'il n'existe à son égard plus de juge. Mais quand on sort de cette sphère, quand on vient à respirer un autre air, parmi les sensations nouvelles qu'on éprouve, il se trouve des plaisirs inconnus. De retour chez soi, on regrette ces plaisirs. Tout se montre sous un autre aspect, et l'on s'aperçoit que ce qui semblait être la nature des choses n'est bien souvent que la manière de sentir d'un peuple. C'est là l'effet que veut produire Madame de Staël. Trouvant à côté de la France le pays qui offre les plus fortes oppositions avec la France même, elle puise là le secret de ces contrastes au moyen desquels on fait ressortir ce qui serait trop vague ou trop indéfini si on le présentait seul. Ces deux différences fondamentales s'offrent à ses regards, et ces différences, relevées dans tout son ouvrage, en font pour ainsi dire l'esprit. Elle oppose d'une part l'empire exercé par la société à la liberté de la pensée solitaire, et de l'autre, l'effet de la doctrine métaphysique qui assujettit l'âme aux sensations, à celui d'un système qui donne la souveraineté à l'âme. Le premier de ces contrastes devait surtout ressortir dans la partie littéraire, le second dans la partie philosophique de l'ouvrage. L'auteur débute par le pur esprit français, voulant prouver qu'elle est chez elle sur le terrain de la noble élégance et de la grâce légère. Madame de Staël se montre capable de satisfaire toutes les délicatesses d'un goût difficile lorsqu'elle rend hommage à un nouveau genre de beauté. C'est peut-être la seule fois qu'on ait vu la cause de l'enthousiasme défendue avec l'arme du ridicule et de la bonne plaisanterie. Le chapitre charmant de l'esprit de conversation peut se mettre au nombre des traités sur l'art faits par un grand maître dans l'art même. Là, Madame de Staël donne tous ses secrets, sans courir grand risque qu'on les lui prenne. La première partie sur les mœurs de l'Allemagne et l'aspect général du pays se rapproche de la forme d'un voyage. Madame de Staël y peint la sensation de tristesse, dont on est d'abord saisi sous un climat sombre et sévère, et la disposition plus douce qui lui succède. Ce qu'elle raconte d'une musique ravissante qu'elle entendit pendant une noire matinée d'hiver, dans les rues encombrées de neige d'une petite ville, serait propre à devenir l'emblème du pays même. On éprouve encore une sensation pareille quand on étudie la langue et la littérature allemande. Quelque chose de pénétrant et d'intime, quelque chose de tendre et de fort, semble parvenir à notre cœur à travers un brouillard d'expressions indécises. Madame de Staël caractérise avec un discernement exquis l'esprit de la société et des institutions dans les différents états de ce pays divisé de tant de manières. Et, quand elle vient à parler de l'éducation, elle expose ses propres idées sur ce grand sujet. Rien de plus ingénieux et de plus juste que les raisons données par elle du peu de succès qu'on obtient lorsqu'on veut substituer pour l'enfance l'étude des mathématiques et de l'histoire naturelle à celle des langues mortes. Cette partie se termine avec éclat par la description d'une fête nationale dans les montagnes de la Suisse. Morceau que des rigoristes en géographie ont trouvé déplacé, mais qui est d'une beauté ravissante. La seconde partie, qui traite de la littérature, est la plus étendue, et c'est celle qui doit piquer le plus vivement la curiosité. L'élite des œuvres de l'esprit, chez une nation enthousiaste et laborieuse, s'y déploie au regard. Et tout un ordre de beautés inconnues frappe et intéresse tour à tour. Avant de parler des ouvrages, l'auteur nous met en société avec les écrivains. Car cette littérature, toute jeune encore, a vu à peine deux générations d'hommes. Et Madame de Staël a pu elle-même s'entretenir avec les vieillards illustres qui en ont été les fondateurs. C'est un phénomène curieux que le déploiement subit d'un esprit très original, chez une vieille nation européenne, arrivée sous plusieurs rapports au même degré de civilisation que les autres. Peindre ce phénomène avec vérité, en démêler avec sagacité les causes, était tout à fait du ressort de Madame de Staël. Elle a tracé les portraits des écrivains avec la chaleur et la bienveillance qui étaient dans son cœur. Schiller, surtout, le vertueux auteur de tant de pièces de théâtre, dont une poésie admirable suffirait pour assurer la réputation. Schiller est traité avec une prédilection particulière. Il avait gagné personnellement ses affections par les qualités les plus aimables et par cette touchante candeur qui s'allie si bien avec le génie. Les extraits des pièces de théâtre sont ravissants. Les tableaux les plus éclatants, les plus forts d'effet, souvent les plus déchirants, se succèdent. On est transporté dans la situation par deux ou trois paroles, et l'art dramatique, avec sa magique puissance, s'empare aussitôt de nous. Là encore, Schiller est présenté à son plus grand avantage, et les tragédies de ce poète sont extraites ou traduites avec une étonnante beauté de couleurs. On peut remarquer là, ainsi que dans les improvisations de Corinne, à quelle hauteur Madame de Staël s'est élevée dans la prose poétique, genre si difficile en français, lorsqu'il s'agit de remuer fortement le cœur à travers la pompe du langage. Le génie devant lequel les Allemands se prosternent tous, celui de Goethe, est très bien caractérisé par Madame de Staël. L'adresse infinie qu'elle met à définir cet esprit si hardi et si profond, ce talent flexible et toujours maître de lui-même au milieu de ses bizarreries, cette adresse était d'autant plus nécessaire que peut-être les productions extraordinaires d'un pareil écrivain ne seront jamais bien appréciées hors de l'Allemagne. Dans le nombre des morceaux distingués dont cette partie se compose, on a cité comme une esquisse de génie le portrait que Madame de Staël elle-même a tracé d'Attila. Ses traductions de Marie Stuart, de la Louise de Vos, celles d'une multitude de pièces détachées, montrent sa prodigieuse susceptibilité d'émotion, ses étonnants moyens pour tout exprimer. Le langage, les habitudes, les préjugés nationaux sont pour elle des milieux transparents à travers lesquels elle voit distinctement la beauté des sentiments, des situations, des conceptions littéraires les plus étrangères à nos mœurs. Et son imagination, frappée, transmet comme par miracle ses impressions. Relativement au système dramatique des Français et des Allemands, Madame de Staël n'a point pris un parti aussi tranché qu'on l'a prétendu. Elle a balancé des inconvénients ou des avantages, plutôt qu'à signer aucune prééminence. Elle a été vivement émue au théâtre allemand, et c'est fort heureux pour ses lecteurs. Celui qui rend compte d'une littérature étrangère doit l'avoir goûtée, sans quoi il est probable qu'il y ait lui-même resté étranger. Chez les deux nations, telles que Madame de Staël les a dépeintes, la littérature entière devait prendre une direction différente. Des auteurs inspirés par le désir de plaire à la société se conforment naturellement à ce qui a toujours plu à cette société. Tandis que des écrivains solitaires se livrent davantage à leurs propres impressions. Les premiers se proposent d'exécuter une œuvre, les autres ne songent qu'à épancher leurs sentiments. Ceux-là ont un plan bien conçu à exécuter. Ceux-ci ont les riches matériaux de leur pensée à employer. De là vient que la beauté des formes l'emportera dans une littérature, et la vérité des sentiments dans l'autre. Les grands maîtres concilient tout. Mais quand il y a un sacrifice à faire, le principe dominant se découvre. Dans le genre dramatique, le moi du poète se transporte ailleurs. Mais alors les auteurs allemands et anglais mettent le même prix au développement d'un caractère adopté qu'à la manifestation du leur. Ils veulent suivre les changements que subit un même être et tracer la marche progressive d'une révolution morale en conservant l'identité de l'individu. Or, cela seul exclut la règle des 24 heures, puisque les brusques vicissitudes montrent la force des passions bien mieux que celle de l'homme, et dénaturent le caractère plutôt qu'elles ne le révèlent. La tragédie historique, qu'appellent de partout les intérêts du moment, se ploie surtout difficilement à la règle des unités. Voilà ce qui se trouve dans l'application. Mais, quand la question sera traitée abstraitement, les critiques français auront toujours l'avantage, puisque le genre de vraisemblance exigé par les lois d'Aristote ne semble rien avoir en lui-même d'incompatible avec le naturel et la force. L'art ne s'est point introduit dans l'ordonnance extérieure des pièces allemandes, quoiqu'on y admire une sublime poésie de sentiments et de situations. La forme française est la seule belle, la seule régulière, la seule même qui soit une forme. Quand donc les critiques ont voulu la conserver, quand ils ont toujours dit aux auteurs « Faites mieux, produisez une impression profonde en restant fidèles au bon sens, unissez la vraisemblance morale à la vraisemblance matérielle », ils ont eu parfaitement raison. Mais à force d'avoir raison, ils finiront par chasser les poètes. Quand l'arbre qui a donné les plus beaux fruits devient rebelle à la culture, faut-il condamner le sol à la stérilité? Si désormais la sève refuse de jaillir abondamment de ses anciens canaux, qu'arrivera-t-il? Il arrivera que, le changement des mœurs bannissant journellement beaucoup de pièces, la scène s'appauvrira. Il arrivera que les imaginations fortes et pathétiques se rejetteront sur leurs romans, au grand détriment de leur gloire, de celle de leur nation et de leur siècle, au détriment des plus beaux effets et de cette émotion électrique qui se communique au théâtre. De plus, au détriment de la poésie elle-même qui languira faute d'un emploi à la fois noble et populaire. Il arrivera enfin que, comme on veut des impressions tragiques, il se trouvera toujours des auteurs qui, laissant tout art de côté, se contenteront de larmes et de salles pleines, et qui feront des mélodrames. que tel ait été le sentiment de Madame de Staël. C'est ce que prouvent évidemment ses paroles. Guillemets. Quelques scènes produisent des impressions plus vives dans les pièces étrangères. Mais rien ne peut être comparé à l'ensemble imposant et bien ordonné de nos chefs-d'œuvre dramatiques. La question seulement est de savoir si, en se bornant comme on le fait maintenant à l'imitation de ces chefs-d'œuvre, il y en aura jamais de nouveau. Fin des guillemets. Note. De l'Allemagne, tome 2, page 4. Après la lecture si amusante des deux premières parties, il est possible que celle de la troisième, sur la philosophie et la morale, paraisse un peu abstraite et difficile, mais on n'en doit pas moins beaucoup d'estime au beau travail de Madame de Staël, travail entrepris par les plus nobles motifs, exécuté avec la plus rare intelligence. Il y avait du courage à traiter des sujets importants sur lesquels on cherchait, alors en France, à jeter une extrême défaveur. L'origine des idées dans l'entendement humain étant la question métaphysique à laquelle se rattachent surtout les grands intérêts de la religion et de la morale, c'est celle-là que Madame de Staël examine particulièrement. La philosophie matérialiste avait gagné beaucoup de terrain en Europe, depuis qu'un principe vrai en lui-même avait servi à fonder un système faux autant que destructif de toute responsabilité morale. De ce que les éléments de nos idées nous sont arrivés par le canal de nos sens, on avait conclu que l'âme elle-même n'était qu'une machine à sensations. Et comme une intelligence active dans le sein de l'homme et un Dieu dans l'univers sont des idées tellement correspondantes qu'on ne rejette guère l'une sans l'autre, un matérialisme absolu ou l'athéisme était le résultat de ces opinions. C'est à combattre une telle doctrine que tous les philosophes allemands se sont appliqués depuis Leibniz. Mais, en voulant rétablir la nature morale dans ses droits, plusieurs ont été poussés vers l'idéalisme. Et ceux-là même qui ont fait jouer le plus grand rôle aux objets extérieurs ont spiritualisé la matière, bien plus qu'ils n'ont matérialisé l'esprit. La clarté, et je dirais la grâce, avec lesquelles Madame de Staël rend compte de tous ces systèmes, est quelque chose de bien étonnant. En elle, nulle trace de pédanterie. Évitant autant qu'il se peut les mots scientifiques, elle ne dit et ne prétend même savoir que tout juste ce qu'il faut pour apprécier l'influence morale de ses doctrines. Elle ne se fait point immédiatement juge de la vérité, mais, convaincue que l'univers entier est l'œuvre d'une pensée bienfaisante et sublime, elle cherche la vérité dans ce qui élève le plus notre âme, dans ce qui nous rend le plus capable d'accomplir le beau et le grand, tel que le génie ou la vertu les conçoivent. L'esprit général de ces systèmes devait plaire à Madame de Staël. Rien de plus favorable à l'essor de l'imagination qu'une philosophie qui exalte l'activité de l'âme et soumet le monde à l'intelligence. Aussi, quand elle vante son heureuse influence sur les arts et la poésie, y a-t-il peu à lui objecter? Les beaux-arts étant fondés sur les rapports mystérieux de notre âme avec l'univers, toutes les affections, toutes les émotions de l'âme doivent être écoutées par l'artiste. Il doit tenir compte de ses moindres impressions, les grossir en s'y abandonnant, pour devenir capable de les transmettre. Dans les sciences morales, le sentiment est aussi un de nos guides. Mais il n'en est pas de même des sciences naturelles. Là, l'homme n'est que spectateur. Ce sont les rapports des choses entre elles qu'il étudie. Il doit faire abstraction de lui-même et de tout ce qu'il éprouve. Aussi les sectateurs des dernières doctrines allemandes ont-ils peu fait de progrès dans l'étude de la nature. Et Madame de Staël n'a pas été assez sévère à l'égard du travers, ou pour mieux dire de la maladie de l'Allemagne, l'idée que l'âme peut trouver toutes les sciences en elle-même. Sans doute, elle n'a pas entièrement approuvé une telle rêverie, mais, en regrettant que de certains aperçus d'imagination ne fussent pas saisis davantage par les savants, elle a paru croire que la méthode expérimentale n'avançait les connaissances que par une sorte de procédé mécanique, et que tout s'y bornait à l'observation des faits. N'ayant malheureusement jamais porté son regard d'aigle sur ces matières, elle n'a pas rendu justice à l'immense grandeur des facultés qui se déploient dans les sciences quand on suit la seule marche qui assure leur progrès. Non seulement ce qu'elle n'a pu tout à fait méconnaître, il s'y développe des forces prodigieuses dans l'intelligence. Mais l'imagination, pour être tenue en bride, ne reste néanmoins pas inactive. C'est l'imagination qui indique en secret à l'investigateur le sentier où il doit s'engager. C'est elle qui forme ces suppositions souvent si hardies dont l'expérience doit déterminer la valeur. Mais elle ne se trahit pas elle-même. Des découvertes inespérées décèlent seules son existence. Et alors, ses lueurs incertaines disparaissent devant la splendeur de la vérité. Note. On pardonnera cette digression à la fille d'un savant qui se sentait attaquée dans son bien le plus cher, la gloire des hommes illustres qui ont suivi la méthode expérimentale. Monsieur de Saussure a donné en effet l'exemple de la plus forte imagination contenue par la raison, puisque sa modeste défiance le forçait à révoquer en doute ses idées les plus heureuses, tant qu'il ne pouvait pas les appuyer incontestablement sur des faits. Fin de note. En revanche, on ne saurait lire sans une profonde admiration le chapitre intitulé « De la morale fondée sur l'intérêt personnel ». Avec une force terrassante dans le raisonnement, avec une éloquence sensible qui n'est qu'à elle, Madame de Staël y pulvérise la doctrine qui prétend nous imposer le sacrifice de nous-mêmes au nom de notre propre utilité, qui confie à l'ennemi, l'égoïsme, la garde de la place attaquée, et qui, donnant un même calcul intéressé pour base à toutes les actions, justifie le vice autant qu'il déshonore la vertu. On peut défier toute subtilité d'obscurcir une telle lumière, et l'on ne saurait trop recommander la lecture de ce morceau, qui classe à lui seul Madame de Staël parmi les premiers moralistes. Mais la dernière partie de l'ouvrage, sur la religion et l'enthousiasme, est celle où son superbe talent d'inspiration parvient à la plus grande hauteur. Là reparaît une autre Corinne, ou plutôt un céleste génie qui rassemble dans un hymne ravissant tout ce qui soutient et fortifie les cœurs généreux. Ce qu'elle entend par enthousiasme n'est point, elle a soin de l'expliquer, une exaltation délirante. C'est la divine harmonie d'une âme à la fois ardente et calme, où règne le culte de la beauté morale et de la source première de toute beauté. Interrogeant les plus hautes jouissances, celles du cœur, celles de la pensée, les plaisirs même de l'imagination, elle retrouve dans toute cette flamme divine qui enlève à la terre le cœur où elle est allumée. La gloire, les talents, les arts, la musique, la poésie, l'amour lui-même, toutes ces joies souvent profanées, mais souvent aussi calomniées par l'homme, lui apparaissent dans leur pureté primitive, comme les dons du Créateur. Un rayon de la bonté céleste illumine à ses yeux la nature entière. Et, voyant dans son propre enthousiasme un bonheur qui ne l'abandonnera jamais, elle sent que, quand arrivera la grande lutte, puisse un tel présage s'être accompli, il a été préparé du secours pour l'âme inspirée, dont les derniers soupirs sont comme une noble pensée qui remonte vers le ciel. Dernière page de l'Allemagne. On sait quel fut le sort de cet ouvrage. La censure y fit de nombreux retranchements. et les phrases supprimées, qui ont été rétablies depuis, font, par leur innocence même, la satire du gouvernement qui ne pouvait les supporter. Toutefois, si chaque ligne paraît irrépréhensible, l'esprit général de la composition était trop contraire à l'intérêt du despotisme. Toutes les passions égoïstes qu'il importait alors de fomenter y étaient trop dévoilées et trop combattues. Et si ce fut une injustice de faire saisir un tel livre, ce ne fut peut-être pas une inconséquence. On mit donc au pilon ces belles pages, et bientôt l'auteur en fut plus cruellement persécuté. Il y eut des hommes auxquels une pénétration infernale suggéra que c'était dans les objets de son affection qu'il fallait frapper Madame de Staël. Son premier ami a tant de titres, Monsieur de Montmorency, et une femme belle et aimable avec laquelle elle était liée, Madame Récamier, furent condamnés à un exil perpétuel pour avoir été consoler le sien. Ce coup est un des plus cruels dont elle ait été atteinte. Jamais douleur ne fut plus déchirante, et dès lors elle résolut de quitter à tout prix une terre où elle croyait répandre la contagion du malheur. Entourée comme elle l'était de surveillants et d'espions, la fuite paraissait dangereuse autant que difficile. Il fallait traverser les armées pour aller chercher en Russie, non pas un asile, mais la seule mer dont le chemin lui fut encore ouvert. L'idée d'exposer sa fille au danger d'un tel voyage, celle de quitter tous ses amis, le tombeau de ses parents, la Suisse même, qui, malgré la tristesse de ce séjour, était devenue pour elle une seconde patrie, celle enfin de fuir comme une criminelle à travers les terres et les mers. Toutes ces idées l'épouvantaient ou lui déchiraient le cœur. Courageuse par fierté, elle avait une imagination facile à alarmer, et les fantômes de la peur prenaient une terrible réalité pour elle. Ses craintes, ses irrésolutions, les combats qui se livraient en elle, la mirent dans un état affreux. Mais, parmi tous les partis à prendre, il en est un qui n'a pas fixé un instant son attention. Une ligne d'éloge au tyran, une ligne qu'assurément elle eût su amener et rédiger avec convenance. Cette ligne qui lui aurait rendu la France, ses amis, l'exercice de son talent, les biens confisqués de son père, cette ligne, elle n'a jamais admis la possibilité de l'écrire. Ce fut pour fortifier son âme ébranlée qu'elle composa, en 1812, peu avant son grand voyage, un écrit contre le suicide. Elle se reprochait quelquefois d'avoir montré, dans ses premiers ouvrages, une sorte d'admiration pour le courage qu'exige cet acte coupable. Et bien qu'elle n'eût point eu d'autre dessein que celui de laver la mémoire de quelques infortunés de la tâche la moins méritée, celle de lâcheté, l'occasion de professer une meilleure doctrine s'étant présentée, elle la saisit avidement. Un double meurtre volontaire, accompagné de circonstances romanesques, avait excité en Allemagne un enthousiasme insensé parmi les journalistes et les gens du monde. Madame de Staël sentit vivement le besoin de se séparer, dans cette occasion, de ceux qu'elle avait tant vantés. Elle démêlait un mélange de vanité dans cette horrible scène. Elle y voyait un mauvais mélodrame exécuté sur le réel, et voulait montrer qu'une sorte d'affectation peut suivre, jusque dans le moment suprême, ceux qui donnent ainsi leur propre mort en spectacle. Prenant son sujet sous un point de vue universel, elle emploie toute la force de son talent à développer les ressources que la religion et une morale élevée donnent à l'homme dans l'infortune. La douleur, dans cet écrit, est présentée comme un moyen régénérateur entre les mains de la Providence. Ne pas nous soustraire à l'action de la souffrance, qui est destinée à nous perfectionner. Étudier les lois, et surtout l'esprit du christianisme, pour nous convaincre que cette religion condamne le suicide. Et placer la dignité morale dans la résignation plutôt que dans la révolte, tels sont les conseils qu'elle donne aux malheureux. Elle avait, dans d'autres ouvrages, admiré le christianisme et vanté les secours qu'il prodigue aux affligés. Mais cela pouvait se faire, pour ainsi dire, du dehors. Dans cet écrit, le dernier sur ces matières qu'elle est composée, elle se place au centre du système, et malheureuse elle-même, elle adhère à la seule croyance qui sauve du désespoir en consacrant la douleur. Enfin, au printemps de 1812, c'est-à-dire au dernier des instants où la fuite était encore possible, Madame de Staël se décida à partir. Elle avait en quelque sorte épuisé ses forces dans l'incertitude. Et quand, après avoir franchi les frontières de la Suisse, il n'y eut plus moyen de reculer, son courage sembla l'avoir abandonné. En relisant dans ses 10 années d'exil, la relation de ce singulier voyage, on s'étonne qu'au milieu des dangers dont elle se formait l'idée, elle ait pu observer, comme elle l'a fait, les pays qu'elle a si rapidement et si secrètement traversés. Ce moment, le plus intéressant de tous à étudier, touchait à celui de la délivrance européenne. Et tandis que, d'un côté, les sentiments qui allaient causer une explosion si terrible étaient parvenus à leur dernier degré d'exaltation, de l'autre, une pusillanimité, une soumission, presque servile, semblait caractériser les gouvernements enlacés dans le grand filet de la politique bonapartiste. Suivie de près par les armées françaises, Madame de Staël ne respirait pas même en Russie, car déjà ses armées étaient sur ses pas. Dans son effroi, elle fut sur le point de prendre la route de Constantinople pour se rendre en Grèce. Son dessein avait toujours été de visiter la Grèce et de puiser à la source la couleur orientale qui devait animer son poème de Richard Cœur de Lion. Mais la crainte d'exposer sa fille au péril d'un tel voyage lui fit prendre le chemin de Moscou. Rien n'est plus curieux que la manière dont Madame de Staël avait jugé le peuple russe. À travers la servitude, à travers la superstition et l'ignorance, elle avait démêlé des traits admirables de caractère dans la nation. Un superbe esprit public allié à une douceur, à une mobilité d'imagination qui contraste avec les passions les plus véhémentes. Elle voyait ce peuple comme une race méridionale transplantée dans le Nord. Le spectacle singulier d'une civilisation récente, hantée sur les restes de l'ancien Orient, celui d'une nature et d'un climat terribles, domptés en quelque sorte à force de magnificence, l'eussent vivement intéressé dans un autre moment. Mais déjà s'avançait l'armée française. Madame de Staël partit de Moscou avec précipitation, et la flamme y dévora ses traces. Son séjour à Pétersbourg ne fut pas long, car non seulement elle ne s'y croyait pas en sûreté, mais elle y éprouvait des sentiments très douloureux. Cette ville si belle, ses édifices splendides, une société aimable, des institutions naissantes qui donnaient le plus grand espoir, tout était menacé de destruction. Des impressions opposées et également pénibles se joignaient à celle-là. L'exaltation nationale était extrême, et, bien que cette disposition des esprits augmentât l'enthousiasme inspiré par la femme illustre qui n'avait pas voulu fléchir sous le joug, l'idée qu'une telle effervescence allait se diriger contre les Français remplissait Madame de Staël de terreur. La Suède, patrie de Monsieur de Staël, lui offrait un asile plus doux et plus sûr. Et, après 15 jours passés à Pétersbourg, elle se rendit à Stockholm. Les désastres de cette année, si redoutables pour l'Europe entière, l'affectèrent profondément. Mais, dans une pareille situation d'âme, elle trouva quelque consolation à vivre en Suède sous la protection d'un héros français auquel elle voua une amitié véritable. Comme lui, Madame de Staël tenait à la France par ses affections. À la cause européenne, par une espérance mêlée de bien des craintes, c'est en Suède qu'elle a publié l'écrit sur le suicide, qu'elle a dédié au prince royal. Au commencement de l'année suivante, Madame de Staël passa en Angleterre. Là, elle produisit la plus vive sensation. Recherchée d'abord comme prodige, elle excita toujours un égal empressement par ses ressources inépuisables et par le charme de son caractère. Aucune prévention contre les femmes qui se mêlent de politique, aucune de ces habitudes qui tendent à restreindre l'influence des femmes dans la société, ne put tenir contre l'attrait qu'elle inspirait. Bientôt instruite de l'état du pays, elle étonne ses vieux défenseurs des libertés civiles par la justesse, par la netteté de ses vues, par son habileté à saisir l'intérêt du moment et celui de l'avenir. Comme en France, comme partout, son inclination l'avait portée à se rattacher à l'opposition modérée et conservatrice, sans jamais se séparer entièrement du parti ministériel. Toutefois, le succès était une faible distraction pour Madame de Staël. Et bientôt, un grand chagrin vint de nouveau bouleverser son âme. Ce fut en Angleterre qu'elle apprit la mort de son second fils, jeune homme dont le caractère fougueux lui avait toujours donné des inquiétudes, mais dont les sentiments nobles et tendres étaient dignes des larmes qu'il a coûtées à sa famille. Les impressions de Madame de Staël à son retour en France ont été décrites par elle dans ses considérations sur la Révolution française, le seul de ses ouvrages dont il me reste à parler.